Unia Europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Dans un an, presque jour pour jour, très exactement le 29 mars 2019, le Royaume-Uni aura quitté l'Union Européenne. Si les termes du divorce semblent acquis, les modalités de la future relation sont encore très floues. Theresa May, la première ministre britannique, a confirmé que son pays quitterait le marché unique et l'union douanière. De leur côté, les 27 ont proposé de ne pas taxer les échanges de marchandises entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, mais ils se sont bien gardés de mentionner les services financiers essentiels pour Londres et la City. Quant à l'épineuse question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, c'est-à-dire entre Belfast et Dublin, le problème reste entier. À 12 mois de larguer les amarres avec l'Union Européenne, la Grande-Bretagne paraît plus désemparée que jamais. Brexit, patience, encore un an, c'est le titre de l'émission et je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Sophie Péder.
Bonjour Daniel.
Vous êtes journaliste responsable du bureau de l'hebdomadaire The Economist en France. On peut rappeler que The Economist n'était pas très favorable au Brexit, c'est moins qu'on puisse dire.
Plus fort que ça, nous avons plaidé vraiment contre, pour rester dans l'Union Européenne.
Philippe Marlière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université College de Londres, UCL. Merci d'être en ligne de la capitale britannique. Est-ce que je peux dire que vous êtes le plus britannique des Français de Londres, ou c'est excessif?
Je l'espère, oui. Oui, je suis ici depuis assez longtemps, je crois, pour être, je crois, assez immergé dans la vie, non seulement politique, mais tout simplement sociale en général.
Thierry Chemin, bonjour.
Bonjour Denis.
Vous êtes le directeur des études de la Fondation Robert Schuman, une fondation évidemment qui s'intéresse de très près et dans tous les domaines à l'Europe. On a déjà eu 1000 fois l'occasion de l'oublier, mais les Britanniques ont dit non à l'Union Européenne, autrement dit, ils ont opté pour le Brexit le 23 juin 2016. Nous sommes le 18 mars 2018, le Royaume-Uni est toujours membre de l'Union Européenne et elle le restera formellement jusqu'au 29 mars 2019. Autrement dit, ça traîne un peu en longueur, sans parler de la période de transition qui va durer, elle, 21 mois, ce qui nous mène à un Brexit effectif fin 2020. Alors, Philippe Marlière, qu'en pensent les Britanniques à qui on avait promis des lendemains qui chantent dès le lendemain du vote ?
Je crois que ces négociations qui ont suivi le vote, vous avez rappelé le calendrier des événements depuis ce vote de 2016, provoquent dans le pays un certain ennui. On ne peut pas dire que ce soit ces négociations soient suivies avec enthousiasme ou un intérêt vif. Je crois qu'il y a plutôt une mise en retrait de la population. Évidemment, des personnes s'y intéressent de près, tout ce qui concerne évidemment le monde de la politique, des médias, le business, le monde de l'entreprise, évidemment, qui sont directement concernés. Ceux qui, je crois, s'intéressent de plus près sont en réalité, plutôt que des Britanniques, l'énorme contingent d'étrangers qui vivent sur le territoire britannique et qui se posent des questions sur leur avenir. Hein. Donc je crois qu'on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire c'est un feuilleton, une saga interminable pour le public, très compliqué à suivre, très technique, comme l'est évidemment ce dossier du Brexit. Et donc finalement, on ne peut pas dire que, comme il y a quasiment des rebondissements tous les jours, on ne peut pas dire qu'il y a une attention soutenue par rapport à ça. Je crois que et on le voit, les sondages d'ailleurs sont très stables, hein, d'un côté comme de l'autre depuis plusieurs mois. Et donc c'est plutôt, je crois, une forme de désengagement parce qu'il semblerait que pour beaucoup de personnes, c'est très très compliqué de comprendre ce qui est en train de se passer.
Et les Britanniques sont un peu surpris par la longueur. J'imagine, en tout cas, on peut se poser la question que ça allait durer dans leur esprit quelques mois et pas quelques années.
Oui, je crois que s'il y a une chose que la plupart des Britanniques ont compris, y compris ceux qui ont voté pour la sortie, c'est que finalement, toute une série de promesses qui avaient été faites par le camp, notamment qui soutenait le Brexit, ne seront pas tenues. Hein, toutes les promesses financières, les promesses de regain d'une souveraineté, d'une sortie sèche par rapport à l'Union Européenne, alors qu'on s'aperçoit maintenant qu'il y aura toujours des liens, qu'on le veuille ou pas, avec l'Union Européenne, il le faut, après la sortie. Toutes ces choses déjà, donc il y a ce qui explique aussi pourquoi le camp du Brexit, finalement, n'est plus soutenu que du bout des lèvres par ceux qui ont vraiment un intérêt, je dirais, premier à ce que le Brexit ait lieu. Pour le reste de la population, je crois qu'il y a un certain désenchantement. Et finalement, ce qui ne veut pas dire non plus que la plupart des Britanniques qui ont voté pour la sortie seraient prêts à changer leur vote s'il y avait de nouveau un référendum aujourd'hui. Les sondages indiquent qu'il y a une espèce de status quo. Mais on sent bien qu'il y a des enchantements, parce que finalement, il y a eu des promesses assez extravagantes qui ont été faites, qui ne seront pas tenues. Donc tout ça renforce un peu un sentiment de « les politiques nous ont promis des choses qui ne tiendront pas, c'est pas clair ». Et finalement, qu'on en finisse vite. C'est aussi l'idée de cette saga, comme je l'ai dit, qui semble interminable.
Sophie Péter, pour l'instant, le moins que l'on puisse dire, c'est que les effets du vote post-Brexit sont loin d'être positifs en termes de croissance, d'inflation et d'emploi. C'est pas forcément plus rose aujourd'hui qu'hier.
Complètement. Il y a deux choses qui me frappent. La première chose, c'est que le Brexit au Royaume-Uni, c'est un sujet, mais majeur. Et quand on est en France, on a l'impression que c'est quelque chose de vraiment marginal. Ça ne préoccupe absolument pas les esprits, ni le gouvernement, ni l'opinion publique. Mais quand on est à Londres, c'est le sujet. Même si ça commence à être très technique et ennuyant, c'est quand même le sujet. Mais la deuxième chose, c'est en effet cette question des conséquences économiques. Toutes les études ont démontré ou ont prévu un effet négatif pour l'économie. Et on le voit déjà dans l'inflation, etc. Mais c'est pas ça le sujet. C'est incroyable. C'est vraiment pas une question c'est vraiment pas une question économique. Je pense que c'est une question identitaire, émotionnelle et un sens de regain de souveraineté qui est souhaité par les Brexiteurs.
Alors, Thierry Chopin, si les négociations traînent en longueur, si finalement ça devient si technique, si compliqué, c'est peut-être aussi parce que le gouvernement britannique ne sait pas exactement ce qu'il veut entre un Brexit dur, c'est-à-dire une coupure très nette entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et puis un Brexit qui ménagerait une forme de relation privilégiée avec l'Union européenne. Voilà, le gouvernement britannique, Theresa May, a navigué d'un côté et de l'autre de la rive.
Oui, effectivement, je partage ce point, et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique la relative indifférence ou difficulté en tout cas de compréhension de la part de l'opinion publique britannique vis-à-vis de ces négociations et de l'issue du Brexit, puisqu'effectivement je crois qu'on peut dire sans risque de trop se tromper qu'il y a un problème de cohérence de la vision politique du gouvernement britannique à l'égard de la forme à venir des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui s'explique d'ailleurs par différentes raisons. Et à mon sens, par une raison principale qui réside dans les problèmes d'équilibre interne au sein du Parti conservateur, qui est clivé entre des personnalités politiques qui sont favorables vraiment à un hard Brexit, c'est-à-dire à la rupture de tout lien avec l'Union européenne, et puis d'autres personnalités qui seraient plus enclines à renouer des liens les plus étroits possibles, notamment pour favoriser l'accès au marché intérieur, y compris dans les services financiers.
Dans l'absolu, les Britanniques aimeraient garder les avantages liés à l'appartenance à l'Union européenne en minimisant les contraintes. En français, on dirait le beurre et l'argent du beurre. Et il y a un homme politique, je crois qu'il s'appelle Jean-Louis Bourlanges, qui a expliqué ça en des termes un peu plus diplomatiques. Il dit, avant les Britanniques étaient dans l'Union avec un pied dehors, aujourd'hui ils sont dehors et vous regardez un pied dedans. Ça symbolise bien, Sophie Péter, la position britannique.
Oui, absolument. Il y avait la phrase qu'avait utilisée Boris Johnson, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui a dit, we want to have our cake and eat it. Et c'est exactement ça, c'est la traduction de la phrase que vous avez mentionnée. Et c'est ça qui est, c'est très difficile à comprendre le point de vue britannique, je pense, quand on est en France. Parce que, effectivement, le gouvernement britannique, ce gouvernement de Theresa May, souhaite garder les avantages de l'Union, d'être dans le marché unique sans avoir des contraintes. Et ça ne se fait pas. On sait très bien.
Mais c'est ce qui a été vendu quand même aux citoyens britanniques.
Bien sûr, avec toute autre promesses qui n'ont pas pu être tenues et qui ne seront pas tenues. Comme disait Philippe Marliard tout à l'heure, je pense que quand on regarde, ça m'étonne tous les jours, quand on regarde ces débats qui ont lieu au sein du gouvernement sur quelle est notre position, quelle est notre négociation, quelle est notre demande. Ce n'est pas une question de demande de la part des Britanniques. Il n'y a pas de... C'est une question des règles. Et le gouvernement britannique n'a pas compris ça, je pense.
Alors, Philippe Marlière, est-ce que vous diriez, un peu comme vient d'expliquer Sophie Péter, que le gouvernement britannique est très désemparé?
Oui, il est très désemparé et je crois qu'il ne peut que s'en prendre à lui-même parce que ce qui prédomine depuis le vote, et d'ailleurs depuis la campagne, hein, parce qu'une partie du Parti conservateur a évidemment fait campagne contre la position officielle du gouvernement de l'époque, de Cameron, qui voulait le maintien. Donc on s'aperçoit qu'il ne peut que s'en prendre qu'à lui-même parce que je crois que c'est avant tout l'amateurisme qui prédomine dans ces transactions et dans le comportement du gouvernement. Comme le disaient les deux autres invités, je suis d'accord avec, le gouvernement ne semble pas savoir ce qu'il veut exactement, ça c'est clair. Et je crois que la raison pour laquelle il ne sait pas ce qu'il veut, c'est qu'il n'y a jamais eu, on s'en rend compte maintenant, il n'y a jamais eu de plan véritable de sortie. C'est-à-dire que ce vote a été motivé d'une concession de David Cameron à son aile droite eurosceptique à l'origine. Mais je crois que lorsque ce référendum a été accepté et mis en œuvre, personne, ou très peu de personnes, pensaient que le vote de Brexit, en faveur du Brexit, allait gagner. Donc, en quelque sorte, les gagnants de ce vote, y compris quelqu'un comme Nigel Farage de UKIP, ont reconnu assez candidement qu'ils étaient surpris, donc ils étaient désemparés. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas de plan véritable d'action, ils avaient sous-estimé effectivement les difficultés techniques, politiques, économiques de cette sortie, et encore, il faut quand même le signaler, la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Eurozone, donc il y a quand même une petite difficulté majeure qui est enlevée. Néanmoins, on se rend compte de l'extrême complication d'une sortie.
Est-ce que vous parleriez d'une médiocrité du personnel politique britannique ?
Écoutez, on peut effectivement qualifier moi j'ai parlé d'amateurisme, oui, donc s'il y a amateurisme, on peut parler d'un personnel politique médiocre, on peut parler d'individus qui poursuivent un agenda politique personnel, servant des intérêts de carrière, je pense notamment à Boris Johnson, Nigel Farage qui certes n'est pas membre du gouvernement a aussi poursuivi probablement ce type d'agenda très personnel. Oui, on s'aperçoit qu'effectivement, au plus haut niveau, engageant des intérêts donc nationaux de la première importance, on a l'impression qu'une poignée d'individus, pas plus, joue finalement avec l'avenir d'un grand pays européen et surtout avec sa réputation, parce que je crois qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que la réputation de professionnalisme, de sérieux de la Grande-Bretagne que ce pays a toujours eu dans les négociations et dans les relations internationales, eh bien, c'est un petit peu on a pris un sacré coup, parce qu'aujourd'hui, la parole du gouvernement britannique et la parole des négociateurs britanniques est mise en cause à chaque fois.
De la difficulté de sortir de l'Union européenne, Theresa May, la première ministre britannique, a fini par l'admettre, c'était le 2 mars dernier.
Je vais être franche, car la réalité est dure. Je cherche une relation qui préserve les intérêts de chacun, et non pas une transaction. C'est un partenariat étendu sur des secteurs plus vastes, ainsi qu'une coopération plus libre que les accords existants. Je crois que c'est faisable parce que c'est dans l'intérêt de tous et de l'Union européenne. Depuis le début, on a toujours été clair. On ne veut pas retourner à l'époque où l'on avait une frontière avec l'Irlande. On a déjà rejeté l'idée d'avoir soit une frontière, soit des contrôles. Mais ce n'est pas assez de le dire. Si l'Union européenne nous oblige à avoir une frontière avec l'Irlande, c'est une décision qui leur appartient. Mais nous avons décidé de quitter l'Union européenne, alors nous avons la responsabilité de trouver une solution.
Alors on va laisser de côté pour l'instant, en tout cas, le problème de la frontière avec l'Irlande, qui est un énorme problème. La première ministre britannique a-t-elle cette fois-ci clarifié sa position, la position du Royaume-Uni, c'était ce 2 mars. Est-ce qu'il y a un retour au réalisme quand vous écoutez Theresa May, Thierry Chopin?
Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on a pu effectivement interpréter ce discours du 2 mars dernier comme des pas faits vers une clarification de la position britannique. Mais de quelle clarification s'agit-il ? Prenons deux exemples. Le premier sur la nature des relations à venir avec l'Union européenne. La première ministre britannique dit « je ne veux pas des modèles existants, et notamment je ne veux pas de l'espace économique européen, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez, je ne veux pas non plus d'un accord de libre-échange du type Canada, parce que ce n'est pas suffisant pour nous ». C'est quoi le scénario intermédiaire ? Quelle est finalement la nouvelle formule qui n'existerait pas à trouver ? On ne le sait pas. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de la part du gouvernement britannique sur ce point, en tout cas d'éléments qui seraient acceptables par les 27 pays membres de l'Union européenne. Premier point. Deuxième point, sur quand même la question de la frontière entre les deux Irlandes.
On va y revenir un peu plus longuement, parce que c'est évidemment un point central.
Le flou continue à perdurer. Et donc, je trouve, pour finir de répondre à votre question, que le flou perdure encore sur la Tamise, quand même. Brouillard.
Sophie Bédère, le Royaume-Uni va donc devoir accepter un certain nombre de conditions et de contraintes contraintes qu'il refusait jusqu'alors. Par exemple, les décisions de la Cour européenne de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, il va falloir que les Britanniques en tiennent compte un certain temps et bien au-delà du Brexit.
Oui, mais c'est pas conçu comme ça. Je pense que le gouvernement britannique n'est pas encore là au point où ils sont dans une optique plus réaliste. Ils sont toujours là en train de improviser, de chercher des solutions, des demandes, de formuler des demandes qui ne sont pas toujours pas réalistes. Et je pense que le cœur du problème, c'est que Theresa May, elle est une espèce de point d'équilibre entre les deux éléments dans son parti, les hard Brexiteurs autour de Jacob Rees-Mogg ou Boris Johnson et autres, et ceux qui sont plus réalistes. Et la raison pour laquelle elle ne peut pas trancher, c'est que ça risque de diviser complètement son parti. Donc elle est dans une espèce de piège. Elle ne peut pas vraiment dire et articuler ce qu'elle veut vraiment. Et on ne sait pas si elle a ses propres idées sur ce sujet. Mais elle ne peut pas dire ça parce que ça ferait exploser son parti.
Alors il y a quelqu'un qui dit à peu près la même chose, mais en des termes différents. C'est le négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, extrait de sa dernière conférence de presse le 28 février dernier.
Je ne cherche pas à provoquer des chocs. Moi, je veux réussir cette négociation. Mais ma responsabilité, c'est de rappeler que c'est le Royaume-Uni qui a décidé unilatéralement de quitter l'Union européenne à la suite d'un référendum. C'est lui qui, unilatéralement, par une lettre de Theresa May, a engager cette négociation au mois de mars. C'est lui qui a fixé la date de sa sortie de l'Union 2 ans après. Et nous sommes à 13 mois de cette date. 13 mois, mesdames et messieurs. Je cherche à provoquer personne. Contrairement à ce que je lis, il n'y a pas d'arrogance de ma part. Aucune arrogance. J'ai un immense respect pour ce pays, pour son histoire, pour sa culture, pour ses dirigeants, pour ses citoyens. Je vous ai dit dès le début que je regrettais cette décision, personnellement, de quitter l'Union européenne. Mais j'ai la mission qui m'a été confiée par le président Juncker, par les 27 gouvernements, par le Parlement, de conduire cette négociation, de la réussir. Et je vous ai dit le premier jour à cette tribune que personne ne devait sous-estimer les conséquences humaines, sociales, juridiques, économiques, financières de cette négociation.
Philippe Marlière, avant on disait « Brexit means Brexit ». Aujourd'hui, on serait plutôt tenté de dire « Brexit means compromis ».
Oui, ça rejoint ce que nous disions auparavant, c'est-à-dire tous ici en studio au mois de Londres, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de plan arrêté, il n'y a pas de vision claire de ce Brexit. Et je pense que le fond de l'histoire, c'est toujours que c'est quasiment un accident, ce vote. Hein. Il n'y avait pas de prévision de victoire et il n'y a pas, peut-être même à l'exception de certains doctrinaires à droite et à l'extrême droite, de volonté véritable de sortie. Donc maintenant, il faut gérer une situation qui est assez inattendue. Et effectivement, on a l'impression, c'est très intéressant d'entendre Michel Barnier, parce qu'effectivement, ici, on a un autre son de cloche, notamment autour du gouvernement ou autour d'une presse favorable au Brexit, qui dit justement il y a une arrogance extrême de l'Union européenne qui veut absolument profiter de la situation pour nous imposer des conditions de sortie inacceptables. Donc c'est très intéressant de voir comment, effectivement, la machine de propagande, ici, renvoie justement la responsabilité de cette situation inextricable et qui est très peu claire sur l'Union européenne et Michel Barnier. Donc je crois que oui, il y a la volonté toujours d'avoir le beurre et l'argent du beurre, une sortie mais en douceur, une sortie en continuant de bénéficier des avantages du marché unique. Et on s'aperçoit que c'est à tous les niveaux, y compris d'ailleurs l'opposition, le Parti travailliste n'est pas, sous la direction de Corbyn, n'est pas très clair là-dessus non plus, sur la question tout simplement, est-ce qu'on peut sortir de l'Union européenne en cessant toute relation avec la zone économique de l'Union européenne. Certains disent que c'est une folie totale pour l'économie britannique, d'autres prétendent au contraire que c'est possible. Donc on en est encore à 13 mois effectivement de cette sortie officielle à émettre des hypothèses, à accuser l'Union européenne de choses qu'elle n'a probablement pas faites, et le temps passe et finalement rien ne se résout.
De la difficulté de quitter l'Union européenne même après un vote des citoyens britanniques, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Unia europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Dans un an, presque jour pour jour, très exactement le 29 mars 2019, le Royaume-Uni aura quitté l'Union Européenne. Si les termes du divorce semblent acquis, les modalités de la future relation sont encore très floues. Theresa May, la première ministre britannique, a confirmé que son pays quitterait le marché unique et l'union douanière. De leur côté, les 27 ont proposé de ne pas taxer les échanges de marchandises entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, mais ils se sont bien gardés de mentionner les services financiers essentiels pour Londres et la City. Quant à l'épineuse question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, c'est-à-dire entre Belfast et Dublin, le problème reste entier. À 12 mois de larguer les amarres avec l'Union Européenne, la Grande-Bretagne paraît plus désemparée que jamais. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Sophie Péder, journaliste, elle est responsable du bureau de l'hebdomadaire The Economist en France. Philippe Marlière, professeur de sciences politiques à UCL, University College de Londres. Il est en ligne de la capitale britannique. Et Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation Robert Schuman. Alors, avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Il y a un Français qui a vu sa notoriété grandir outre-Manche, pas forcément son image, car il est perçu comme un empêcheur de Brexiter en rond. Il s'agit bien sûr de Michel Barnier, le négociateur de l'Union Européenne pour le Brexit.
Chez lui, la bonne volonté, ce n'est pas vraiment naturel. C'est le magazine The Spectator qui fustige le Français Michel Barnier, le chef des négociateurs européens. Ce qui est pointé du doigt, c'est le fait que pendant des mois, Michel Barnier a refusé d'ouvrir les négociations sur le futur accord commercial sous prétexte que les Britanniques n'approuvaient pas la facture du divorce. Une fois que la question a été réglée, en décembre, Michel Barnier n'a fait que trouver un autre obstacle, la frontière entre les deux Irlandes. Provocation supplémentaire pour le magazine conservateur, il pense, et c'est ce qui transparaît dans l'ébauche de traité final présenté le 28 février, que la seule manière de conserver une frontière ouverte est de maintenir l'Irlande du Nord dans l'union douanière. Une manœuvre qui reviendrait de fait à créer une séparation entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Tout à fait inacceptable pour la première ministre Theresa May. Pourquoi un tel acharnement, s'interroge The Spectator. La Suisse opère depuis des années à l'intérieur de l'espace Schengen avec peu de barrières douanières. Donc pourquoi ne pas créer un mini-espace Schengen entre le Royaume-Uni et l'Irlande. En tout cas, la rigidité de Michel Barnier, croit savoir The Spectator, n'est pas du goût de tous dans les capitales européennes. Le sentiment dominant confinerait même à l'exaspération. En dehors de Bruxelles, il n'existerait donc aucune volonté de punir les Britanniques, même si, concède l'hebdomadaire, il y a des regrets de voir le Royaume-Uni partir. L'objectif des États européens serait donc de construire une relation constructive avec les Britanniques, tout comme les chefs d'entreprise qui redoutent la mise en place de barrières douanières.
Alors on sent bien qu'il y a un problème, alors quelle solution imagine-t-on, voit-on du côté de Londres pour débloquer cette situation ?
En tout cas, The Spectator pense avoir la solution qui serait de contourner Michel Barnier, de s'adresser directement aux chefs d'État européens beaucoup plus ouverts. L'hebdomadaire cite comme exemple les responsables italiens qui se sont positionnés en faveur d'un accord commercial incluant les services financiers, chose pour l'heure inenvisageable à Bruxelles. Si l'équipe de Barnier adoptait une approche aussi constructive, nous parviendrions à un accord en un rien de temps, assure The Spectator. Et de poursuivre, le Brexit est difficile, mais les tactiques de Barnier ne font qu'aggraver les choses, et cela pourrait bien se retourner contre lui. Comment ? Eh bien en apportant de l'eau au moulin d'une certaine frange de députés britanniques favorables à un Brexit dur et qui préféraient, dans ces conditions, voir Theresa May claquer la porte des négociations.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International l'hebdo et courrierinternational.com le site. Alors Thierry Chopin, Philippe Marlière nous l'expliquait dans la première épisode de l'émission, Michel Barnier c'est vraiment l'homme qui fait peur, c'est l'homme à abattre, c'est l'épouvantail hein, côté britannique. Évidemment, contourner Michel Barnier, c'est évidemment une tentation britannique, mais pour l'instant, les 27 sont restés très unis. On a l'impression que ça a surpris les Britanniques que les 27 soient très unis dans cette négociation.
Oui, je le pense aussi. En fait, c'est d'abord un point, à mon avis, qu'il faut souligner, c'est que finalement, du point de vue des 27, négocier avec le Royaume-Uni, qui à terme sera un État tiers vis-à-vis de l'Union européenne, a eu pour conséquence d'unir les Européens. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des grandes forces dans la négociation du point de vue des 27, c'est effectivement cette unité. La deuxième chose, c'est que cette unité, elle provient d'un accord entre les 27 qui ont négocié un mandat sur la base duquel Michel Barnier négocie au nom de l'Union européenne avec les Britanniques. Donc l'argument qu'on vient d'entendre consistant à contourner Michel Barnier pour négocier avec les États membres, en fait, ne tient pas de ce point de vue-là, puisque ceux qui ont négocié le mandat, ce sont précisément les 27. Et que Michel Barnier, finalement, est le défenseur des intérêts de l'unité des 27 pays membres de l'Union européenne. Et puis, en dernier lieu, il faut quand même rappeler, ça a été le cas tout à l'heure, mais il faut à nouveau le souligner, que attention au transfert de responsabilité. Je veux dire, qui a décidé effectivement de sortir de l'Union européenne, c'est une majorité de Britanniques. Qui a décidé de demander le retrait, c'est le gouvernement britannique. Donc attention à ne pas faire porter le chapeau à Michel Barnier, effectivement.
Sophie Peter, Michel Barnier a présenté à cette occasion, fin février, un projet de traité de l'Union européenne qui organise le Brexit. 120 pages, 168 articles. Les Européens donnent l'impression de savoir où ils veulent aller, eux, à l'inverse des Britanniques.
Oui, mais je pense que dès le début, ça n'a pas été compliqué pour les Européens. La complication se trouve au côté britannique. Et c'est précisément, je pense que c'est important de revenir à l'état d'esprit des Britanniques actuellement pendant cette négociation. Parce que cette citation du Spectator est importante, c'est un magazine de droite, mais on trouve cette idée que les Européens, comme on les appelle, les Européens, veulent nous punir. Et ça, c'est très répandu à Londres, cette idée au sein du gouvernement, du Parti conservateur et même dans d'autres partis qui sont en faveur du Brexit.
Et au sein de la population ?
Oui, et dans l'opinion publique, les Européens veulent nous punir pour notre décision et c'est pas juste. Y compris Barnier sont en train de...
Ils sont méchants
avec nous, c'est la diabolisation de Barnier. Ça fait partie de l'ambiance dans laquelle cette position... pas clair du gouvernement et est en train d'être formulé, si on peut dire ça.
Alors, Thierry Chauvin, d'un mot, qu'est-ce qui reste encore à négocier ?
La vraie question, effectivement, parmi les conditions sur lesquelles les Européens et les Britanniques devaient se mettre d'accord pour cette première étape qui est l'accord de retrait, le point qui reste aujourd'hui le plus flou, on a commencé à en parler tout à l'heure, c'est la question de la frontière entre les deux Irlandes. L'Irlande du Nord va rester dans le Royaume-Uni. Et il n'y aura pas de frontière dure, comme on dit, hard border, entre les deux Irlandes.
Et Philippe Marlière, à Londres, à quoi ça peut ressembler une frontière qui n'est pas dure ? C'est d'ailleurs une frontière molle. Ça ressemble à quoi ? Alors, vous n'êtes pas dans la négociation, hein, vous n'avez pas forcément la réponse à cette question, mais à Londres, pour les Britanniques, ça ressemble à quoi une frontière molle ?
Écoutez, le concept de frontière molle n'existe pas ni en relations diplomatiques ni en droit international, donc je crois que c'est encore une fois, on invente hein, sur le tas, dans l'improvisation totale. Et oui, c'est vrai, il y a une contradiction énorme entre une sortie dure et le fait qu'il y a un pays, c'est-à-dire la République d'Irlande, qui va rester membre de l'Union européenne, évidemment, puisque c'est un État indépendant. Et avec cette difficulté qu'il y a une partie de cette Irlande séparée, donc l'Ulster, qui est donc sous domination, sous responsabilité de la couronne britannique, et effectivement, que se passe-t-il ? Et c'est pour le moment, ce n'est pas réglé, c'est-à-dire qu'encore une fois, le gouvernement britannique entend avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire nous sortons, mais effectivement, il n'y a pas de frontière, et ça ne semble pas compatible. Je note que l'une des conséquences du Brexit, c'est aussi d'un petit peu de fragiliser l'ensemble de l'architecture du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'architecture constitutionnelle et les rapports entre les différents pays qui sont membres de la couronne. D'une part, il y a cette question irlandaise, et puis il y a la question aussi dont on n'a pas encore parlé, de l'Écosse. L'Écosse, évidemment, regarde avec beaucoup d'inquiétude cette sortie de l'Union européenne, parce qu'on le sait, ni le gouvernement en place du SNP, ni une majorité d'électeurs écossais ne veulent sortir de l'Union européenne. Et donc, ils se demandent en quelque sorte, qu'allons-nous faire dans cette couronne britannique, dans cette union plutôt, en dehors de l'Union européenne, alors que nous voulons y rester. Et donc, ça peut de nouveau nourrir la volonté du gouvernement actuel de reproposer un référendum d'indépendance de l'Écosse. Donc on pourrait aboutir à un résultat en conclusion où non seulement la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, mais aussi son union à elle est en train de s'effriter à la suite de cette sortie de l'Union européenne.
Je reviens un instant à la proposition de l'Union européenne pour imaginer cette frontière molle entre l'Irlande du Nord d'un côté et la République d'Irlande de l'autre. La proposition de l'UE, ça s'appelle une aire réglementaire commune, mais ça implique effectivement, Sophie Peter, une frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. C'est inacceptable pour Theresa May et c'est inacceptable pour globalement tous les Britanniques.
Il faut peut-être se rappeler de la géographie de cette situation. Donc vous avez cette île, l'Irlande, avec une partie dans le nord, qui est l'Irlande étant un État à part entière. L'idée de ne pas avoir une frontière sur l'île de l'Irlande, entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, d'accord, mais dans ce cas, il faut une frontière dans la mer, entre l'Irlande du Nord
et
la Grande-Bretagne, qui font partie de le même État. Et ça, c'est inimaginable. On ne peut pas commencer à mettre une frontière juridique au sein d'un État comme ça, avec une frontière, avec des douanes, etc., pour les bateaux qui partent de l'Irlande du Nord. Donc, tout ça, c'est juste extrêmement compliqué. C'est pas résolu. Il n'y a pas de solution réaliste sur la table. Et ça reste un grand souci pour cette négociation.
Et à terme, Thierry Chebin, je sais pas, vous vouliez intervenir, peut-être que ça peut prolonger, en tout cas, provoquer une réunification de l'Irlande, ce qui serait évidemment ce que réclame par exemple le Sinn Féin, le parti irlandais très catholique, ce qui serait évidemment une horreur pour le Royaume-Uni.
Très difficile d'anticiper ce qui pourrait se passer politiquement, mais en tout cas, ce sur quoi je voulais revenir, il y a finalement une solution pour éviter en fait le retour d'une frontière entre les deux Irlandes, c'est le fait que le Royaume-Uni puisse quitter l'Union européenne comme il le souhaite et revenir dans une union douanière. Mais puisque ça éviterait en fait le retour des contrôles sur les flux de marchandises en fait entre les deux parties, et donc on évite finalement et puis sur les flux aussi de personnes entre deux parties, donc on éviterait finalement le retour à une frontière. Simplement ce scénario, cette formule de l'union douanière en fait n'est pas acceptée aujourd'hui par le gouvernement britannique parce qu'il n'aurait plus la liberté de fixer lui-même en fait ses droits de douane. Mais une formule existe qui, j'allais dire, fait partie de l'existant. Mais formule, encore une fois, rejetée aujourd'hui par le gouvernement britannique.
Mais c'est très compliqué parce que si vous faites partie de l'union douanière avec l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de négocier vos propres accords
absolument,
commerciaux
absolument.
Avec des tiers parties sur les biens. Et ça, c'est inacceptable pour le gouvernement britannique. Donc, et en effet, vous avez absolument raison. C'est une solution éventuelle. Mais
c'était pas la peine de voter
politiquement d'accepter ça.
Alors, dans les futures relations que vont entretenir de toute façon à un moment ou un autre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il y a l'échange des marchandises. Et là, l'Union européenne a fait la proposition, pas de taxes, pas de quotas. Mais il faut dire que c'est très avantageux pour l'Union européenne qui exporte plus vers le Royaume-Uni qu'elle n'importe du Royaume-Uni. Donc c'est une proposition qui paraît comme ça très généreuse, mais avantageuse, Philippe Marlière, pour l'Union européenne. Par contre, les 27 sont restés muets sur la partie qui intéresse le plus les Britanniques, et pour cause, ils représentent 10% du PIB, les échanges dans le domaine financier. Alors, il est clair que avec le Brexit, les Britanniques vont perdre ce fameux passeport financier qui leur permet jusqu'à aujourd'hui aux banques britanniques d'exercer sans restriction leur activité sur le continent. Comment voit-on ça du côté de Londres? Évidemment, la finance est importante.
Oui, bien sûr. Ça, c'est une source d'inquiétude très forte dans le monde de la finance et de la city londonienne. L'avenir aussi incertain des services financiers, en particulier les questions de délocalisation de certaines banques certains services financiers qui quitteraient physiquement au moins dans leurs activités Londres pour aller s'installer dans d'autres places financières européennes. Donc pour le moment je n'ai pas Sophie Pedas pourra me le confirmer ou l'infirmer, mais il n'y a pas encore de signe de mouvement de délocalisation apparent important en tout cas. Il y a eu ici et là quelques départs, quelques repositionnements, mais on attend. Je crois qu'on est surtout dans l'expectative, mais c'est un dossier aussi important. Un autre dossier important, en plus de que l'on a commenté jusqu'à présent, celui de l'avenir de la City. Effectivement, si Londres devait perdre sa place prédominante en Europe, ce qui est après tout une possibilité, ce n'est pas sûr, eh bien ce serait encore une fois un autre aspect négatif de cette sortie pour l'économie britannique.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, Brexit, patience, encore un an. Nous sommes avec Sophie Péder, journaliste et responsable du bureau de l'hebdomadaire The Economist en France, avec Philippe Marlière, professeur de sciences politiques à UCL à Londres, et avec Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation Robert Schuman. Alors on a compris que tout ça c'était très difficile, qu'on risque de manquer de temps pour arriver à terme, pour une négociation et un accord qui satisferait et les Britanniques et les Européens, ce qui n'empêche pas Theresa May de dire « je veux un accord ambitieux ». Sophie Péder, c'est quoi un accord ambitieux quand
Je ne sais pas, honnêtement, je reconnais et je le comprends de moins en moins mon pays et de moins en moins ce gouvernement. Donc un accord ambitieux, très bien, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut demander ce qu'elle veut, mais elle n'est pas dans une position de faire des demandes. On attend, elle est dans une situation très compliquée politique pour gérer son parti qui est divisé en deux.
Elle peut survivre en...
Elle, c'est une question, mais le problème, c'est que elle, si elle survit pas, qui pourrait être le remplaçant? Et ça pourrait être encore pire.
Elle est le plus petit commun.
Ça peut être un Brexiteur dur, comme Boris Johnson, par exemple. Et dans ce cas, ça sera l'improvisation totale et avec une volonté de vraiment aller, même de sortir sans un accord du tout. Et ça, c'est le plus dangereux de tous les scénarios.
C'est possible?
Évidemment, tout est possible. Mais ça serait dangereux pour tout le monde. Et l'incertitude, qui est déjà très importante dans cette affaire, serait totale à ce moment-là.
Si, évidemment, le Brexit aura un coût, évidemment pour les Britanniques, il sera plus important pour les Britanniques que pour les Européens, mais il aura aussi un coût, Thierry Chopin, pour les Européens.
Oui, alors on sait effectivement, je pense qu'il faut quand même rappeler ce premier point, que l'impact en fait économique sera quand même plus fort pour le Royaume-Uni que pour les Européens. Ce qu'on a d'ailleurs évoqué tout à l'heure, en témoigne, c'est-à-dire d'abord, effectivement, il est toujours bon de rappeler que le Royaume-Uni a eu 10 ans de croissance supérieure à la croissance des Européens. Depuis le Brexit, en fait, ce différentiel s'est inversé. Donc, les premières conséquences du Brexit, en fait, même s'il n'a pas encore eu lieu, on peut les constater. Par ailleurs, effectivement, un accroissement de l'inflation et puis une dévaluation de la livre sterling par rapport à l'euro, qui témoigne bien en fait de ce différentiel en termes d'impact. Par ailleurs, évidemment, cet argument il vaut d'un point de vue macro, mais ensuite, si on regarde effectivement pays par pays, si on regarde secteur d'activité par secteur d'activité, bien oui, il peut y avoir des conséquences importantes en fait de ce Brexit sur certains pays européens, sur certains secteurs d'activité dans certains pays européens. Je prends un exemple qui est très connu en France, c'est le secteur de la pêche. On sait que de manière générale, les prises dans les eaux britanniques par les pêcheurs français représentent, je crois, entre 20 et 22% du total, en fait, des prises françaises. Évidemment, l'accès aux eaux britanniques va être plus compliqué après le Brexit. Qu'est-ce qui se passe également en matière de transport aérien? Qu'est-ce qui se passe en matière de coopération, en matière industrielle, de défense, par exemple. Donc, certains secteurs d'activité risquent effectivement d'être impactés en l'absence de définitions claires, de règles communes sur la base desquelles, finalement, les relations économiques et commerciales entre les deux parties pourraient être organisées. Et de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Sophie Péder. Le scénario le plus catastrophique de ce point de vue, c'est, et on ne peut pas complètement l'écarter, c'est l'absence d'accord. Si on veut être pessimiste, on va plutôt dans cette direction-là. Vous avez un autre scénario, disons, qui serait celui d'un optimisme, mais modéré, puisque je pense qu'il n'y a pas de bonne solution en réalité après le Brexit. Ce second scénario, disons, plus optimiste, même si, encore une fois, il doit être modéré, c'est finalement un accord au dernier moment, comme souvent en matière européenne, sous la pression des événements, sous la pression du calendrier, des échéances, la deadline, consistant à dire, bah oui, finalement, on sort, mais accord de transition, période de transition pendant 2 ans pour réduire l'incertitude économique, notamment pour les acteurs économiques des deux parties, européenne et britannique. Et puis, on lance, on ouvre la négociation sur un futur accord de libre-échange complété avec des accords sectoriels sur des sujets qui sont d'intérêt commun pour les Britanniques et les Européens.
En tout cas, cette semaine, les chefs d'État et de gouvernement européens vont affiner leur position lors d'un Conseil européen qui sera en grande partie consacré à la position européenne face au Brexit.
Alors, je pense que tout ne sera pas décidé lors de ce Conseil européen de mars.
Non, ce sera une étape. Philippe Marlière, on sent bien que les Britanniques, le gouvernement britannique, la diplomatie britannique mobilisent énormément d'énergie pour gérer ce Brexit. Est-ce que de temps en temps on dit quelle perte d'énergie alors que le monde continue à tourner autour de nous, que les Chinois existent, les Russes aussi, les Britanniques sont bien passés pour le savoir en ce moment. Le monde bouge autour du Royaume-Uni et le Royaume-Uni semble, en tout cas vu de Paris, c'est une impression que l'on a, très concentré avec une énorme énergie pour gérer ce Brexit qui est, on se rend compte, assez ingérable.
Oui, je confirme votre impression depuis la France, c'est-à-dire que une somme d'énergie, d'attention, de débat, y compris évidemment pour commencer dans les médias, est dévolue à la question du Brexit. Et ça semble tout à fait anormal par rapport à, je dirais, au cours normal de l'action politique et gouvernementale dans quelques pays que ce soit. C'est-à-dire que quand on écoute les informations télévisées, on lit les journaux, on a l'impression qu'effectivement tout tourne, ou pratiquement autour du Brexit, ce qui est en soi bizarre. Et on se demande comment en est-on arrivé là. Et je voudrais peut-être dire une chose sur cette question assez paradoxale dans laquelle se trouve ce gouvernement conservateur. C'est que finalement c'est un gouvernement conservateur qui aura fait sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et on peut se poser la question pourquoi, hein, parce que quand on voit finalement comment les Britanniques, sous l'impulsion des différents gouvernements, notamment à partir de Tony Blair, avaient réussi à mettre le Royaume-Uni dans une position finalement assez centrale, un des acteurs vraiment importants de l'Union européenne, donc aux côtés de la France et de l'Allemagne notamment, pourquoi en sortir alors que finalement ils prennent de très grands risques, et pas simplement économiques, pourquoi sortir de cet ensemble où ils étaient plutôt grandis, alors que cette Union européenne était plutôt bonne pour eux, hein. Donc je crois, pourquoi les conservateurs ont-ils commis une telle erreur politique d'une Union européenne? On voit que finalement, ils ont répondu, notamment la frange eurosceptique et de droite du Parti conservateur, ils ont répondu avant tout à des motivations idéologiques. Ce qui va complètement à l'encontre du fameux pragmatisme britannique en la matière. Et je crois que tout cela, finalement, est très étonnant, parce qu'il n'y a jamais eu, finalement, de critique qu'on pourrait appeler de gauche du Brexit, c'est-à-dire ce qu'on appellera en anglais « l'exit », hein, une sortie, une contraction, « left » et « exit », qui aurait été finalement de dire, parce qu'il y a finalement beaucoup de choses à redire de cette Union européenne sur le plan de ses politiques, sur le plan du fait qu'elle n'a pas... aider à promouvoir une croissance, mais l'emploi, etc., comme elle le prévoyait.
Personne n'a tenu ce discours en Grande-Bretagne. Sophie Péder, qu'est-ce que ça veut dire, ce Brexit, un peu plus profondément, je vous allongeais sur le divan, sur l'état d'esprit des Britanniques?
Oui, c'est en effet très curieux et très désespérant en même temps. Je pense que on peut chercher ça peut-être dans cette vague identitaire qui s'est réveillée ces dernières années en Europe et ailleurs. On l'a vu dans l'élection de Donald Trump qui a eu lieu juste après le Brexit, même année. On peut voir ça en Catalogne, dans d'autres régions de l'Europe et au sein de certains gouvernements, comme le gouvernement polonais, par exemple, un sentiment nationaliste, identitaire.
Mais on le comprend mieux d'un point de vue polonais que d'un point de vue britannique.
Oui, mais le situer d'abord dans un contexte un peu plus européen et large. Oui, exactement. Et puis pour les Britanniques, il ne faut pas oublier que c'était 52% de la population. Donc ça, c'est surtout un reflet d'un pays partagé en deux. C'est un pays partagé sur plusieurs axes, sur les régions, entre Londres qui a voté pour rester. Londres, une ville très internationale, qui a élu quand même un maire musulman de Londres qui a accueilli des immigrés depuis des années et des décennies et qui est très à l'aise avec l'international. Londres a voté pour rester. certaines régions, pas toutes, certaines régions, notamment pas l'Écosse, ont voté pour partir. Mais sur d'autres axes aussi, c'est un peu ceux qui sont les victimes de la globalisation sont contre ceux qui ont profité de la globalisation. Donc il y a cet axe-là, pas seulement parce qu'il faut le nuancer dans le par le fait que il y a dans en province britannique certains milieux très aisés qui ont voté pour quitter le Royaume-Uni. Donc c'est un pays
partagé.
Est-ce
que c'est un pays qui perd confiance en lui-même?
C'est un pays qui partage confiance en lui-même, oui, globalement, mais je veux insister sur ce point de division parce qu'on peut pas parler du Royaume-Uni actuellement. Il y a deux pays là. Un de ces deux pays, oui, a perdu confiance, mais pense pouvoir regagner ses confiances en dehors de l'Europe, libéré entre guillemets des contraintes européennes et dans un monde. Parce que quand on entend Boris Johnson, c'est pas pour se replier sur soi qui veut quitter l'Union européenne, c'est pour être à la tête d'un Global Britain, donc un Grande-Bretagne dans le monde, mais c'est un autre monde, un monde, je sais pas, lié avec les pays du Commonwealth ou autre.
C'est un
fantasme qui
est là. Un monde d'illusion.
À mon sens, oui, mais c'est en effet, c'est un pays partagé, divisé, mais qui a perdu son sens de pragmatisme et son sens de du réel, quelque part.
Merci. Merci à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Afonso et Sacha Mitchell de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, RFI.fr, rubrique émission, ou les applis mobiles de RFI, elles sont gratuites, notamment la petite dernière RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, que vous soyez à Londres, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite. Un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.